Vous écoutez RTL.
Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce jeudi 7 mars, le cardinal Barbarin, condamné à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon, il a été reconnu coupable de ne pas avoir dénoncé des agressions pédophiles. Il fait appel, l'un de ses avocats, Maître Soulier, l'invité de ce journal. Le détenu radicalisé qui a grièvement blessé deux surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe connaissait bien l'auteur de l'attentat de Strasbourg. Il avait passé 5 mois dans la même prison que Chérif Chekat à Épinal. L'écologie enfin abordée par le grand débat. Emmanuel Macron rencontre en ce moment des élus et des jeunes dans un village des Alpes de Haute-Provence. La déroutada du PSG, éliminé par Manchester United 3-1, humilié devant son public au Parc des Princes. C'est aussi un choc psychologique pour les joueurs. Nous serons avec un spécialiste de la préparation mentale, Denis Troche, qui est aussi un ancien entraîneur adjoint du PSG. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Vent, orage, averse, neige, c'est le cocktail
la
du
totale.
Jour.
La totale. Ça va très très vite. En plus, on a une perturbation qui finit à peine de s'évacuer cet après-midi par les frontières de l'Est, que la suivante va déjà donner des nuages et quelques averses sur le centre-ouest du pays. Et puis, entre les deux, donc ce cocktail, des averses, parfois accompagnées de pluie, de grésil, de coups de tonnerre, toujours de fortes rafales de vent sous ces averses. C'est plus calme quand même du côté de la Méditerranée et sur le sud-ouest, mais avec des nuages qui débordent sur le golfe du Lion avec quelques averses. Et puis, les températures en forte baisse cet après-midi dans le sud-ouest. On attend seulement 14 degrés à Bordeaux, 13 à Paris et Dijon, 12 degrés à Lille et un maximum de 19 degrés à Nice.
La question du jour sur RTL.fr. Le cardinal Barbarin doit-il démissionner? Vous dites oui à 75%, 17% de non. Vous allez pouvoir en débattre avec Pascal Praud, 3210. Bonjour Pascal.
Bonjour, ce sera notre principale discussion, mais on parlera également fortement du Paris Saint-Germain.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
Le silence du cardinal Barbarin était bien coupable. Le primat des Gaules a été condamné à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour ne pas avoir dénoncé les agressions pédophiles du père Prénat qui appartenait à son diocèse. Ses avocats ont fait appel juste après le jugement. Frédéric Perruche, vous êtes au palais de justice de Lyon. Cette condamnation, c'est une énorme surprise.
Ah oui, clairement, car par deux fois, le parquet de Lyon, à l'été 2016 et lors du procès, avait classé l'affaire ou requis le non-lieu. Donc cette condamnation, certes symbolique, 6 mois avec sursis, était inespéré pour les 9 plaignants, 9 des victimes du père Prénat. Donc la joie est à la hauteur de la surprise immense. Pierre-Emmanuel Germain-Thil a d'ailleurs quitté le tribunal, sourire aux lèvres, point levé.
C'est énorme, c'est monstrueux, c'est fantastique, ça fait un bien fou, c'est très libérateur. Et surtout pour les autres victimes qui ont du mal à se montrer, qui ont peur, qui ont encore du mal à avancer et à qui ça va peut-être donner encore plus de courage et de se dire bah, enfin, notre combat il aboutit, enfin il y a des choses qui avancent. Merci du fond du cœur à ces juges. Ouais.
Pour le tribunal, le cardinal Barbarin a fait le choix du silence après l'été 2014, alors qu'il connaissait les faits. Le choix de préserver l'institution, l'Église, d'éviter le scandale en n'alertant pas la justice. La condamnation est motivée et c'est l'épilogue heureux de 3 ans de combat pour François Deveau, cofondateur de La Parole Libérée.
Peut-être que la justice divine n'est pas exactement la même que la justice des hommes. C'est une victoire, je crois, qui envoie un signal très fort à beaucoup de victimes, qui amène à la reconstruction, que nul n'est au-dessus des lois.
Reste une question en suspens, Mgr Barbarin va-t-il démissionner? Il donnera sa réponse dans une demi-heure lors d'une conférence de presse.
Frédéric Perruche. Alors avec nous, Maître André Soulier, l'avocat du cardinal Barbarin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous vous attendiez plutôt à une relaxe? Vous êtes surpris de cette condamnation?
Nous espérions une relaxe. Et je dois en être à 15 000 à faire plaider depuis le début de ma carrière. J'ai donc eu des relaxes en première instance. J'ai eu des condamnations. On est allé devant les cours d'appel, la Cour de cassation, parfois la Cour européenne des droits de l'homme. Franchement, ça n'est pas. L'étonnement ne vient pas de là. Pour moi, l'étonnement vient de ce que la motivation n'est pas une motivation suffisante pour déclarer le cardinal Barbarin coupable, de n'avoir pas couru pour changer le père Prénat d'affectation. Mais cela dit, je constate et crois déceler ici une satisfaction donnée à ce Moloch qu'est l'opinion publique dans notre société d'émotion qui finit par dériver parfois vers des affrontements. C'est une satisfaction donnée. Alors, moi je me souviens.
Vous accusez la justice d'avoir travaillé sous la pression, sous une pression morale de la société?
Je pense qu'elle ne peut pas avoir été indifférente à cela. Je ne peux pas dire je vous accuse d'avoir cédé, etc. Mais le juge est immergé dans la société. D'ailleurs, la présidente du tribunal a tenu à remercier chacun pour la grande tenue des débats, etc. Écoutez, c'est trop. Moi, je n'ai pas à recevoir de compliments de la part des juges, j'ai à recevoir un jugement. Et je me souviens de cette vieille formule que les plus anciens m'enseignaient. Écoute, ne t'exalte pas, tu as 24 heures pour maudire tes juges et 10 jours pour faire appel. Eh bien, appel, voilà.
C'est quand même une accusation que vous portez sur la justice, Maître Soulier.
Oh, écoutez, je ne porte pas d'accusation contre la justice. Je suis un homme libre. Vous savez, je suis un peu comme Ferrante Palla dans la Chartreuse de Parme qui s'enchaîne aux grilles du palais de la Sanseverina. Je suis un avocat libre. Donc je dis ce que j'ai à dire. Je ne diffame personne, mais j'ai le droit d'avoir mon opinion puisque le juge a une opinion sur nous et sur ce que nous avons soulevé. C'est tout.
Maître Soulier, Monseigneur Barbarin ne s'est pas déplacé au tribunal ce matin. Est-ce que vous l'avez eu en ligne ?
Alors, avec mon confrère Luciani, le contact a été pris avec le diocèse et avec le cardinal. Il n'était pas nécessaire qu'il vienne, il n'était pas cité par le parquet, il n'a pas fait l'objet de la moindre instruction. Il était cité par des parties civiles et en vertu d'une citation directe. Et le tribunal s'est prononcé. Il n'avait donc, d'ailleurs, il n'y a pas eu de la moindre interrogation de la part des juges pour savoir si tel ou tel était absent. Et il n'y avait personne d'autre que l'évêque de Nevers qui, sans doute, voulait venir respirer l'air de notre bonne ville.
Est-ce que vous avez eu Monseigneur Barbarin en ligne ce matin ?
Non, pas encore.
Non, pas encore. Donc vous ne connaissez pas encore sa réaction ?
Ah, mais sa réaction, c'est on fait appel. Ses collaborateurs au diocèse ont dit, voilà, son éminence, le cardinal Barbarin, décider d'interjeter appel de cette décision. Point à la ligne. Vous savez, on ne va pas se jeter dans le formalisme. Il suffit de nous donner la direction. S'il avait dit « je ne fais pas appel », bien entendu, nous en serions restés là.
Merci Maître André Soulier d'avoir été l'invité d'RTL Midi. La prison de Condé-sur-Sarthe toujours bloquée, c'est là que deux surveillants ont été poignardés mardi par un détenu radicalisé. Édouard Philippe en personne a reconnu une défaillance, probablement dans la fouille des visiteurs. Et l'on en sait plus ce matin sur la raison pour laquelle Michael Sciolo a revendiqué son acte terroriste au nom de Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg. Les deux hommes se connaissaient, Guillaume Chiez, ils ont passé 5 mois dans la même prison à Épinal.
Oui, et même s'ils n'ont jamais partagé la même cellule, Michael Sciolo et Chérif Chekat se sont fréquentés durant cette période, fréquentés au point de devenir amis. À l'époque, Sciolo est déjà radicalisé, décrit comme un détenu prosélyte. Il essaye régulièrement de convertir ses co-détenus à l'islam radical. Chekat, lui, purge une peine de 2 ans de prison comme détenu de droit commun. À sa libération en 2015, Chérif Chekat va continuer à entretenir les liens avec Michael Sciolo. L'administration pénitentiaire fait état d'au moins 2 courriers que le futur auteur de l'attentat de Strasbourg a envoyés aux détenus. Des courriers à forte connotation religieuse. Chérif Chekat lui fait également part de son intention de venir lui rendre visite dans sa nouvelle prison à Condé-sur-Sarthe. Des visites qui n'ont, semble-t-il, jamais eu lieu.
Guillaume Chiez. Une pause et dans un instant, Emmanuel Macron se met au vert avec les jeunes.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
C'est le prix du carburant qui avait fait enfiler un gilet jaune à plusieurs milliers de Français. Près de 4 mois après, le grand débat aborde enfin la question de la transition écologique. Emmanuel Macron échange en ce moment avec des élus et des jeunes à Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Et les adolescents qu'a rencontré Dominique Tenza ont soigneusement préparé leurs questions. Ils sont enthousiastes, mais pas naïfs.
Je m'appelle Capucine, j'ai 13 ans.
Valentin, j'ai 11 ans. On a su qu'on était sélectionnés pour représenter notre collège.
On n'était pas tout à fait prêts. Du jour au lendemain, on nous a dit « Bonjour, vous allez voir le président et il faut vous préparer, il faut bientôt réviser. » Donc là, ça surprend.
Du coup, on vient pour poser des questions sur l'écologie. Pourquoi dans les supermarchés, les dentifrices par exemple ou les pots de yaourt sont encore emballés dans des cartons alors que quand on arrive chez nous, on les jette ? J'espère que je vais pouvoir lui poser la question. Et...
Moi, c'est sur l'environnement. J'ai 12 ans.
Sur les déchets, sur tout ce qui pollue. La terre.
Sur les gilets jaunes.
L'attitude des gilets jaunes.
Si ça le gêne ou si ça le gêne pas, voilà surtout.
Je croyais qu'on était là pour parler d'écologie.
Ah
Les professeurs nous ont interdit sur les gilets jaunes.
De poser des questions.
Oui, voilà. C'est pas un sujet à aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'environnement.
Vous trouvez qu'il en fait suffisamment sur l'écologie, Emmanuel Macron ?
Non. Je pense qu'il peut encore faire plus.
Je pense qu'il va nous écouter, qu'il va nous répondre, mais après, dans le futur, je sais pas s'il va faire ce qu'on a proposé.
Emmanuel Macron qui prolongera ses rencontres en région jusqu'à fin mars, début avril, soit après la fin du grand débat.
RTL, sur la route du grand débat.
Transition écologique d'un côté, problème de transport de l'autre. Sinamir nous emmène aujourd'hui à Saint-Flour dans le Cantal où seulement 2% des salariés empruntent les transports en commun pour se rendre au travail. Du coup, les guichets SNCF ferment les uns après les autres. Au 1er juin, il n'en restera qu'un à Aurillac. Éric Debuire est délégué CGT à la SNCF.
Aujourd'hui, on peut voir que des lignes ferment, que des trains sont supprimés. Les usagers ne peuvent plus prendre le train pour se rendre à leur travail ou même voyager dans le département. C'est devient de plus en plus compliqué. Le fret a complètement disparu, ce qui a fait exploser donc les camions sur les routes. Et quand on connaît l'état des routes du Cantal, c'est très compliqué aujourd'hui pour circuler, vu l'enclavement que nous subissons. On ne parle pas de service public dans un département rural, on parle de rentabilité. Ils ont fermé pas mal de guichets dans le département. On vieillit tout numérique, on leur dit, ben voilà, vous pouvez prendre votre billet sur Internet. Vous pouvez même retrouver des réductions sur Internet, sauf que le département du Cantal n'est pas desservi partout par la fibre, ou même l'Internet. On a quand même pas mal de zones blanches. Et on a une population vieillissante, c'est ce que je vous ai dit. La seule chose qui pousse ici dans le département, ce sont des EHPAD. Les gens ne savent pas vraiment se servir d'un ordinateur ou d'Internet. C'est très compliqué pour eux.
Voilà, c'était le constat d'un cheminot au micro RTL de Sinamir. Allons plus loin avec vous, Martial Liu. La réalité du transport domicile-travail aujourd'hui, c'est d'abord la voiture.
Oui, et c'est vraiment le cœur de ce mouvement des Gilets jaunes. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Le trajet domicile-travail, ça représente 90% de nos déplacements. Plus la ville où vous habitez est grosse, donc où les transports en commun sont très développés, moins vous prenez la voiture. Mmh. Les trois quarts des déplacements pour aller travailler en France, ça se fait avec une voiture. Mais quand vous habitez dans une des 10 villes françaises de plus de 200 000 habitants, là, vous n'avez plus qu'un employé sur deux qui part au bureau avec sa voiture. Et quand on habite Paris intramuros, là, il n'y a plus que 12% des gens qui prennent la voiture pour aller travailler. Donc, à part dans les très grosses villes, on est dans le tout bagnole. Et d'autant qu'en milieu rural, on vient de l'entendre, il n'y a pas d'alternative. Mmh. Le covoiturage, ça représente 2 à 3% des trajets domicile-travail. Et puis surtout, la FNAUT qui défend les usagers des transports en commun note qu'on a fermé 900 km de lignes ferroviaires en 10 ans, surtout en milieu rural, sur des trains du quotidien. On a aussi réduit des dessertes, là aussi on l'a entendu à l'instant, pour des préfectures ou des chefs-lieux de canton. La France des Gilets jaunes, elle dépend de sa voiture et attention, le sujet est inflammable. Il le reste parce que le prix du carburant est en train de repartir à la hausse, plus 1,8% depuis un mois sur le sans-plomb 95 et plus 2,2% sur le gazole. On ne s'en était pas rendu compte.
Merci Martial, c'est bien de nous le rappeler. Notre rubrique sur la route du grand débat est à retrouver sur notre site rtl.fr avec le reportage complet de Sinamir. Le maire de Bordeaux s'appelle désormais Nicolas Florian. Il était jusqu'à présent adjoint aux finances et c'est lui qu'Alain Juppé avait désigné comme son successeur. Il a été élu ce matin par le conseil municipal. Membre du Parti des Républicains et proche de Valérie Pécresse, il promet de ne pas être un maire d'intérim et se présentera au municipal l'an prochain. Les accusations de Marine Le Pen ce matin sur RTL, elle a affirmé que les lobbies finançaient les partis du Parlement européen en prenant l'exemple de Monsanto et du groupe des libéraux ADLE, auquel appartient la majorité. Nous avons vérifié. Le groupe Bayer-Monsanto a bien loué un stand, 12 000 euros lors du dernier congrès des libéraux européens. C'était au mois de novembre à Madrid. Mais dans ce groupe ne figure ni le Modem, ni La République En Marche, puisque le jeune parti d'Emmanuel Macron n'a encore aucun député européen. Une pause et dans un instant, la déroute du PSG.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Cette fois, le PSG est entré dans l'histoire du foot européen. Seul club à s'être fait éliminer en Ligue des Champions après deux improbables remontadas, dont la dernière à domicile au Parc des Princes. Le PSG a donc été éliminé en huitième de finale par Manchester United, battu 3-1 après un pénalty dans le temps additionnel. L'entraîneur Thomas Tuchel n'avait pas de mots, les supporters si.
Honte et humiliation, ouais. Les deux. C'est pas normal de perdre contre une équipe aussi faible. Barcelone, c'était des grands joueurs en face. Là, franchement, Manchester, ça vaut une équipe moyenne de Ligue 1. Le mal est profond. La direction, elle est inexistante, à mis à part l'argent qu'ils mettent. Il y a des joueurs qui ont envie de se montrer au plus haut niveau. Et si Paris est comme ça, une étiquette de loser, c'est bien possible qu'ils aillent voir ailleurs.
Non, le chat noir, j'y crois pas. Non, non, ils s'y croyaient déjà. Voilà, il a manqué un peu de conviction, j'ai l'impression. Le niaque par moment. Puis bon, il y a des danseuses. On a une belle danseuse. Ce qui est blessé. Il faudrait que Neymar s'en aille. Parce qu'à ce prix-là, il faudrait quand même qu'il joue un petit peu plus. Le carnaval de Rio, c'est beau, c'est très joli, mais enfin, ça peut cher payer le voyage, quoi.
Les supporters sonnés en colère, rencontrés par Yann Boucherie. L'un d'entre eux, on l'entendait à l'instant, met en cause Neymar. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, Nicolas Georgerot. À qui la faute?
Alors, c'est vrai que les fautes se partagent. Les joueurs se demandent encore comment tout cela a pu arriver. C'est un sabordage individuel et ça pose question sur leur niveau avec les deux buts cadeaux du défenseur Thilo Kehrer et du gardien Gianluigi Buffon. Ce sont aussi Draxler, Mbappé, Di Maria par exemple, un rendement insuffisant alors que les Parisiens pouvaient empêcher un suspense inutile. Et puis sabordage collectif parce qu'on revient à un mal profond, le mental, malgré des joueurs expérimentés, le PSG s'est rendu vulnérable.
Alors il y aura de toute façon un avant et un après ce match, c'est sûr. Est-ce que ça veut dire, Nicolas, que les grandes manœuvres vont commencer?
Alors ce qui est sûr, c'est que tout, absolument tout se complique. C'est catastrophique sur plusieurs points, pour l'image renvoyée à l'international, pour la crédibilité, pour les finances aussi. À court terme, d'abord les 20 à 30 millions d'euros qui s'envolent, mais aussi à moyen terme, les négociations de certains contrats avec des sponsors. Il y a l'organigramme du président aux joueurs, en passant par le directeur sportif, qui est réellement à sa place. Puis il y a les concurrents qui vont courtiser les Neymar, les Mbappé et autres pour s'engouffrer dans la brèche.
Est-ce qu'on peut imaginer le Qatar quitter le PSG?
Alors là, c'est beaucoup plus improbable pour des raisons stratégiques et diplomatiques, parce que le Qatar, qui va organiser la Coupe du Monde en 3 ans, a besoin de rester ancré dans le football international avec le Paris Saint-Germain. Et donc un désengagement pour des raisons sportives lui ferait perdre la face.
Merci Nicolas. Avec nous, Denis Troche, ancien entraîneur adjoint du PSG. Bonjour.
Oui, bonjour à vous tous.
Vous vous êtes reconverti dans le coaching et la préparation mentale avec la société Human Progress Center, et on a envie évidemment de comprendre avec vous la psychologie des joueurs de Paris et le choc qu'ils viennent d'encaisser. À votre avis, ils sont dans quel état ce matin?
Ouais, ils sont dans un... je pense suite à un événement comme celui-ci, on peut être dans un déni immédiat, mais qui passe vite vers une colère certaine suite à l'écho que ça a pu prendre ce match. Ou ce résultat surtout.
Est-ce que, pour vous, c'est avant tout une faillite psychologique ce qui s'est passé hier?
Non, on ne peut pas mettre le côté psychologique à toute sauce. Il est certain qu'il y a un impact, il y a eu des impacts suite aux années précédentes, ces éliminations en quart de finale, en huitième de finale, ça devient récurrent et redondant. Et effectivement, l'environnement, l'équipe, les supporters, les joueurs peuvent être impactés par cet environnement. Mais par ces résultats précédents. Pour autant, si ça a été travaillé précédemment, on peut nettoyer et revisiter ces résultats pour que demain et après-demain, ça ne revienne plus.
Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de la part des Qataris? Ils ne cessent de dire qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions depuis qu'ils sont entrés au PSG, depuis 2011. Ça peut être contre-productif finalement d'afficher cette volonté tous les ans. Tous les ans, on entend dire « Ah oui, c'est pour cette année ».
On ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir. Je crois que à ce niveau, si les Qataris ont annoncé un objectif certain, gagner la Champions League, ce n'est pas le fruit du hasard. Ils se sont donné les moyens, apparemment, financiers. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la puissance, l'ADN, le club. Et derrière tout ça, des enjeux, mais aussi une partie psychologique qui doit être aussi abordée.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on n'efface pas certaines choses, on n'efface pas les bonnes ou les mauvaises choses du jour au lendemain, et heureusement. Donc le Paris Saint-Germain a des choses, des forces, des ressources énormes, mais aussi de quelques faiblesses, et il est nécessaire sur le temps de travailler sur le fond aussi, pour que sur la forme, comme des matchs comme celui-ci n'existent
quelles
plus.
Quelles sont ces faiblesses selon vous?
Les faiblesses, ouais. comme tout à chacun, comme chaque club, comme chaque personne a des faiblesses. La faiblesse peut être aussi de croire en leur malchance. Ça n'existe pas forcément. Je ne suis pas sûr qu'un club...
Vous voulez dire qu'on se défausserait quelque part sur la malchance?
Non, on pourrait. On pourrait aller sur ce terrain-là. C'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Alors que le bonheur, le plaisir et la Champions League n'appartient pas qu'à un seul club. C'est celui qui va le mériter qui l'aura. Et donc il est nécessaire à ce moment-là de travailler sur cette finalité qui a changé de signe. Mais il faut nettoyer toutes les imperfections qui ont pu avoir lieu depuis quelques années.
Nettoyer et leur redonner confiance. Quel discours faut-il leur tenir à ces joueurs aujourd'hui ?
Vous savez très bien que dans 99% des actions, des événements que l'on va vivre, des rencontres, des compétitions, il est nécessaire d'avoir confiance.
Oui.
Donc la confiance est essentielle, quoi qu'il en soit. Il est nécessaire qu'il y ait une confiance individuelle, collégiale, hiérarchique, une confiance de situation où on a déjà vécu des choses. Pour autant, ce que les dernières choses vécues par le Paris Saint-Germain en Champions League, ce sont des événements plutôt toxiques, c'est-à-dire l'élimination en quart ou en huitième de finale. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Et c'est un travail qui va prendre du temps, à votre avis ?
Oui, bien sûr. On dit toujours qu'il est nécessaire de travailler sur des cycles. Heureusement, ce n'est pas un cycle de Coupe du Monde. Il aura fallu attendre 4 ans pour véritablement nettoyer tout ça. Là, ce sont des cycles annuels, notamment. Mais il faut dès maintenant travailler sur le fond pour que dans 2020, la Champions League puisse tendre les bras au Paris Saint-Germain.
Merci beaucoup. Merci Denis Troche d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Je rappelle que vous êtes un ancien entraîneur adjoint du PSG. Convoi exceptionnel, c'est le titre du dernier film de Bertrand Blier. Et c'est surtout l'impression qu'on a eue ce matin ici à RTL quand on a vu arriver dans ce studio le réalisateur Christian Clavier et Gérard Depardieu. L'occasion aussi d'évoquer le succès de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui compte déjà 6 millions d'entrées. Il y a eu ce bel échange entre les deux acteurs.
Je ne suis jamais blasé de faire des entrées ou que les gens soient contents d'aller voir les films. C'est très difficile de faire que les films fonctionnent, c'est très difficile de les financer. Dans Le Bon Dieu, j'ai une liberté incroyable avec ce personnage. Le film de Bertrand est différent, mais c'est un film évidemment d'un grand auteur, d'un grand écrivain, mais c'est un film consommable. Voilà, parce que moi, je déteste les films non consommables.
Moi, je suis très heureux que Christian ait fait ces choses. Bon, maintenant, ce n'est pas 6 millions d'entrées, on s'en fout. C'est vrai, mais il a tellement été décrié que là je suis vraiment très heureux parce que là il semble qu'il est aimé. Et en plus, il représente très bien, comme de Funès, ce qu'est le français. Un ronchon, un raciste, un petit roquet, un béret qui dénonce, c'est la délation. Et là, il n'est pas comme ça du tout, c'est un homme exquis, extraordinaire.
Il fait ça très bien, Gérard Depardieu. Et je vous conseille aussi de réécouter en podcast la chronique de Laurent Gérard ce matin, qui leur était consacrée. Un délice de mots et de bons mots à retrouver sur RTL.fr. Pascal Pro est revenu dans ce studio. Vous allez pouvoir dialoguer avec lui. Bel hommage à Eugène Saccomano.
Qu'on salue, mais je pense que les auditeurs se mettent en refait le match parce que tout le monde a un avis sur le PSG. Oui. C'est ça qui est formidable d'ailleurs. Tout le monde a un avis. Bah, on l'attend. Forcément. Vous en avez un ? J'adorais vos questions
ah bon,
à Denis Troche. Mais parce que...
Moi, j'essaie de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête des
mais
joueurs.
Mais le foot, vous êtes marrant. C'est le seul sport, le foot, où le plus fort ne gagne pas toujours. En sport individuel, c'est impossible, par exemple. En basket, le plus fort gagne toujours. En rugby, le plus fort gagne toujours. Parce qu'il y a une telle différence physique qui fait les différences. Le foot, c'est de la magie. C'est magique pour ça, le foot. Et c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Il y a la malchance
Paris,
hier.
C'est pas toujours magique.
Je suis d'accord. Il y a la malchance quand même hier. Il y a quand même aussi la malchance.
Oui.
Tu tires sur le poteau, un pénalty qui n'existe peut-être pas, la 94e minute, etc. Bon, mais. Enfin, au match!
Vous êtes formidable. Allez, à tout à l'heure. La météo, Patricia Charbonnier, toujours perturbée.
Toujours très instable. On a une perturbation qui finit de s'évacuer par les frontières de l'Est. Donc derrière, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne en météo. Et une traîne très active cet après-midi sur la moitié nord avec des averses localement fortes, parfois orageuses et toujours accompagnées de fortes rafales de vent. Dans le sud, c'est mieux, c'est plus calme et c'est ensoleillé entre le sud des Alpes, la Méditerranée et près des Pyrénées. Puis on a déjà une nouvelle perturbation qui va donner des nuages et un petit peu de pluie cet après-midi sur les Charentes avec des températures comprises entre 10 et 19 degrés, 10 degrés à Aurillac, 12 à Lille, 13 à Paris et jusqu'à 19 degrés à Nice.
Bon, et demain, si j'ai bien compris, le défilé continue.
La même chose, la perturbation qui va progresser des côtes de la Manche vers les frontières de l'Est. Elle perdra un petit peu de son activité dans l'après-midi, mais on aura encore des averses sur une bonne partie du pays et de la neige au-dessus de 1000 mètres sur les massifs et un temps toujours très ensoleillé. Entre les Alpes et la Méditerranée, les températures en baisse, entre 1 et 9 degrés demain matin, 9 à 19 dans l'après-midi, jusqu'à 19 degrés comme aujourd'hui à Nice, 13 à Paris, 11 à Quimper. Et la tendance du week-end, bah, c'est toujours ce défilé de perturbations. Donc c'est encore un temps très gris, très humide.
Ça va durer ?
Ça va durer même la semaine prochaine. D'accord. Ah, c'est un rythme soutenu et pour l'instant, on ne voit pas vraiment la fin de ce défilé de perturbations. Ça reste vraiment très humide, avec en plus, sous les perturbations, souvent de fortes rafales de vent sur les côtes et dans les terres et des températures qui sont à peu près de saison.
Bon, et le petit arrosage était quand même nécessaire.
Ça va faire du bien.
Voilà. Merci pour les nappes phréatiques. Dans un instant, le rappel des titres avec Alexandre de Saint-Aignan. RTL. Il est 13h.
Le Tout Info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Les surveillants de prison maintiennent la pression deux jours après l'agression de deux de leurs collègues au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Plusieurs établissements restaient bloqués ce matin, 10 selon la chancellerie, 80 selon les syndicats. Plusieurs blocages ont été levés par les forces de l'ordre ce matin. Le représentant de Force Ouvrière à Fleury-Mérogis, Thibaut Capel.
On a déjà eu des faits similaires sur Ony, l'année dernière sur Vendin, sur Borgo. Donc, au-delà de la gravité des faits, c'est surtout des faits qui commencent à être récurrents chez nous. Donc là, c'est juste pas possible en fait. On n'est pas payé pour crever. On a un ministère qui ne nous écoute pas. Nous, on est en train de crever sur les coursives. On va pas se laisser faire. Nous, on garde des terreaux, on garde des violeurs, on garde des voleurs. Bah, demain, s'il n'y a plus personne, on fait comment ? Tout simplement, on essaye de survivre. Et en face, bah non, on nous envoie du gaz et des matraques. On est toujours prêt à discuter. On exige une audience auprès de la ministre pour débloquer cette situation-là. La balle est dans son camp. Elle sait ce qu'elle a à faire. Par contre, elle sait que ça va lui coûter cher.
Le représentant Force Ouvrière de la prison de Fleury-Mérogis avec Raphaël Vantard pour RTL. Les temps ont changé pour l'Église, estime une des victimes présumées d'un prêtre pédophile. Le cardinal Barbarin a été condamné à 6 mois de prison avec sursis ce matin pour n'avoir pas dénoncé des abus sexuels dans son diocèse de Lyon. Il n'était pas présent au moment du verdict. Ses avocats vont faire appel. Monseigneur Philippe Barbarin doit s'exprimer d'ici quelques instants. Une page d'histoire se tourne à Bordeaux. C'est Nicolas Florian qui a été élu maire pour remplacer c'est Alain Juppé, il était le seul candidat adoubé par l'ancien Premier ministre.
Il y a quand même d'illustres personnages qui sont passés avant moi, Jacques Chaban-Delmas, Alain Juppé, Hugues Martin. Et moi, ça m'a fait tout drôle d'arriver dans un bureau sans Alain Juppé. Moi, j'ai l'habitude de venir ici pour rencontrer Alain Juppé. Voilà. Donc c'était quand même un peu d'émotion et je vous cache pas que je l'ai savouré un peu en solitaire.
Nicolas Florian avec Philippe de Maria pour RTL, le nouveau maire de Bordeaux qui aura donc la lourde tâche de succéder à Alain Juppé au moins jusqu'à l'année prochaine, date des prochaines élections municipales. Un grand débat axé sur le thème de l'écologie. Emmanuel Macron est dans les Alpes de Haute-Provence aujourd'hui avec 400 personnes. 10e étape pour le chef de l'État à une semaine de la fin de cette grande consultation censée répondre à la crise des gilets jaunes. Conduire avec un téléphone portable à la main, c'est non, mais avec une tablette sur les genoux, passe encore. Le tribunal de Nantes a relaxé cette semaine un automobiliste. Il avait été interpellé l'an dernier au volant avec une tablette numérique qui lui servait de GPS sur les genoux. Une aide à la conduite qui, elle, est autorisée. Une faille difficile à prévoir pour Christophe Ramon de la prévention routière.
Le code de la route n'est pas là pour sanctionner tous les comportements dangereux et inimaginables. Sinon, ça ferait un volume d'articles qui serait considérable. Il faut quand même en revenir à des principes de bon sens hein, qui fait qu'on doit être en état de maintenir le contrôle de son véhicule. Et donc, pour l'utilisation d'un GPS ou d'une tablette en mode GPS, il faut absolument fixer l'appareil avec une fixation qu'on achète dans le commerce. Et dans le cas qui est décrit, là, bien sûr, on a une situation qui est potentiellement dangereuse parce que la tablette va entraver les jambes, les bras du conducteur. On va détourner le regard de la route ou on peut être confronté à un imprévu qui fait qu'on a un accident.
Christophe Ramon de la prévention routière avec Christophe Bourou pour RTL. Il est 13h04 à l'horloge de la Bourse de Paris en partenariat avec Investir les Échos. Les boursiers sont un petit peu frileux aujourd'hui, Sylvie Aubert.
Et oui Alexandre, le CAC 40 abandonne à l'instant 0,5%, tout comme le Dow Jones d'ailleurs hier soir. Les investisseurs attendent la signature de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine avec d'autant plus d'inquiétude que les signes de ralentissement se multiplient des deux côtés de l'Atlantique. Hier, les économistes de l'OCDE ont à baisser leurs prévisions de croissance mondiale et aux États-Unis, on note aussi un ralentissement. Selon le livre beige publié hier, la croissance s'est poursuivie mais à un rythme plus modéré, compte tenu bien sûr du shutdown. Ainsi, la réserve fédérale américaine devrait continuer à se montrer patiente dans sa politique monétaire. Aujourd'hui, c'est au tour de la BCE de faire le point. On attend bien sûr un statu quo sur les taux d'intérêt. Du côté des valeurs, on remarque quelques hausses de plus de 2% comme Eurofins Scientifique ou DBV Technologies. à l'inverse, Elis chute de 5% et au CAC 40, eh bien c'est Accor qui abandonne 2%.
Le point bourse à la mi-journée signé Sylvie Aubert. On marque une courte pause et puis il vous attend déjà. Pascal Praud, les auditeurs ont la parole.
Vous écoutez RTL.